Allez, on passe tout de suite au marché. Un nouveau record encore cette semaine sur les indices boursiers, et puis ça s'est un peu calmé, sans se calmer vraiment. Perspective de baisse des taux, excellent résultat des entreprises. Bon, quand même, juste, on va parler, bon, le CAC, 7,5% de hausse, S&P 10%, Nasdaq 11% de hausse, Eurostock 11%, le Nikkei 15%, Shanghai 4,5%. Quand vous voyez un résultat comme Nvidia, qui, juste sur l'annonce de ses résultats trimestriels, donc qui était ses 262% de hausse de son chiffre d'affaires par rapport au trimestre précédent, quand vous voyez que ça crée, vous qui vous battez sur des petites valeurs à quelques centaines de millions d'euros, et que ça crée 140 milliards en quelques minutes de crédit.
Hein? Bah, plus que ça, mais après notre travail c'est le relatif et le pourcent, pas l'absolu. Mais ce qui est important avec Nvidia, c'est de se dire qu'aujourd'hui les perspectives de résultats 2025 par rapport à il y a un an ont été multipliées par 5.
Voilà.
Donc c'est-à-dire qu'il y a un an tu pensais que les résultats, l'IPS d'Nvidia de tête c'était 6 dollars par titre. Aujourd'hui, j'ai regardé avant de venir, ça doit être 26 ou 28. Donc c'est juste que la hausse du cours de Nvidia, c'est pas une buse.
Mais ce que je veux dire, c'est que pour votre métier de gérant, il n'y a pas un moment où vous vous dites, bon, je veux dire, il y a des Nvidia, à la limite, il faut faire que ça, quoi. Dans un sens ou dans l'autre.
Factuellement, vous montrez les indices, en réalité, prenez le SN, je crois que ça fait 100% Nvidia cette année.
Ouais.
Vu le poids dans les indices, regardez tous les fonds Global Tech, ils ont tous du Nvidia, du truc, du machin. En réalité, vous faites la perf du S&P ex GAFA, on va me dire, tiens, si t'enlèves ce qui monte, il reste ce qui baisse. Mais en réalité, c'est un petit peu ça aussi. Donc, encore une fois, je le répète à chaque fois, les indices sont quelque chose qui sont un peu en trompe-l'œil aujourd'hui, parce que dans l'histoire, ils n'ont jamais été aussi concentrés. C'est-à-dire qu'en fait, très peu de sociétés ont tiré les indices de façon extraordinaire.
Mais est-ce que c'est anormal ? Parce que finalement,
c'est aujourd'hui accentué par la gestion passive. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus.
Mais est-ce que c'est pas parce qu'en fait,
mais ça va tourner,
on a dit plusieurs fois, winners take all.
Non, mais
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir dans l'intelligence artificielle, il faut 200 milliards. Une start-up, elle ne va pas mettre 200 milliards
C'est pas ça. Dans toute révolution technologique, il y a des paliers. Là, on est dans le moment infrastructure. Et le moment infrastructure, la meilleure boîte pour l'infra aujourd'hui dans le monde, s'il n'y a pas photo, c'est Nvidia. Après, dans 18 mois, on va passer à autre chose parce que aujourd'hui, regardez bien le consensus sur Nvidia post-publication, il a bougé, mais pas tant que ça. T'es à 80% de croissance cette année, tu descends à 20% l'année prochaine. Après, c'est tellement gros, et à un moment, les AMD, les machins, les trucs, et puis dans l'IA, la capacité de calcul, il y a la puce qui est fondamentale, mais après, t'as le soft, et puis après, il va y avoir les gens qui vont se dire. Moi, j'ai pas forcément besoin de la Ferrari. Je peux me déplacer en Audi. Et après, t'as ceux qui disent, moi, je peux me déplacer en Peugeot, en Stellantis. Et ça sera plus Nvidia. Donc, il y a d'autres gens qui vont arriver. C'est-à-dire que la croissance Nvidia, on raconte ce qu'on veut. Dans 2 ou 3 ans, elle va baisser.
Non, je comprends.
Est-ce que ça justifie faire des multiples?
Mais donc, je dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que finalement il faut pas surfer sur Nvidia et puis dans 18 mois surfer sur.
C'est ça la bourse. Hein.
Ouais.
La bourse. Regardez, il y a 10 ans, la star de la bourse était Iliad. Mmh. Alain était tellement énervé par son cours de bourse qu'il est sorti. Donc, la bourse, c'est ça. Regardez le Novo Nordisk, les trucs sur l'obésité. Si tu n'en avais pas, t'étais mal barré. Voilà, notre métier, effectivement, la différence.
D'ailleurs, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que je ne sais pas qui a sorti une étude sur toutes les valeurs Covid. Et qui se sont fait complètement démonter, qui sont revenus pour la plupart.
Aujourd'hui, elles sont moins chères. Voilà. Je ne vous parle pas en multiples.
Non, non.
Je vous parle en capitalisation, oui. En valeur, que 2019. Alors qu'entre-temps, elles ont aujourd'hui un niveau d'activité qui est sans commune mesure avec ce qu'on imaginait en 2019. Mais là, vous vous trouvez dans le débat éternel des gens qui sont comme moi. Regarde les fondamentaux des boîtes et les valorisations versus les marchés qui sont très momentum. Donc on achète ce qui brille quand ça brille et après on passe à autre chose. Voilà, c'est ça. Alors en fait, il y a ce débat-là qui est éternel, mais s'il y a des gens qui ont compris quelque chose, c'est les gens du private equity. On a un fonds de développement durable cher à mon ami Alain. Ce fonds-là, depuis le début de l'année, a eu 4 OPA. Voilà, c'est tout. C'est que tout le monde s'en fout. T'as de la chance, encore invité alors que tu fais de l'ESG et du vert, mais tout le monde s'en fout de l'ESG, tout le monde s'en fout du climat, parce que ça a souffert de la hausse des taux, c'était plus à la mode. Sauf que, y a des gens qui savent compter, qui disent, mais à ce prix-là, c'est quand même complètement débile, donc moi, je vais y aller.
Voilà.
Alain, la bourse, ça vous inspire quoi ?
Alors la bourse, c'est vraiment super, c'est ce que vous avez décrit en fait, c'est-à-dire beaucoup de liquidités, des résultats qui ne sont pas mauvais, des gérants investis, une volatilité très basse.
C'est un alignement de planète.
Les small mid-cap qui sont en train de rattraper leur retard, ouais. Bah, ça ne va pas vite, mais enfin bon, elles viennent de loin, puis elles ont quand même des gens comme vous qui n'arrêtent pas de tirer dessus. Donc tout est bien orienté pour que ça soit de la hausse dans les mois qui viennent, mais moi je pense que ça va baisser, justement à contrario par rapport à ça, parce que je pense que le marché a besoin de souffler. Et je dis pas que dans 3 ans le marché sera pas plus haut, mais je pense que là on est arrivé à un moment donné.
Pourquoi
où, en fait c'est une conviction, c'est un peu contrariant. Je pense
parce que
c'est
les économistes nous disent bon, il va y avoir de l'inflation.
Oui, mais ils raisonnent à long terme. Enfin, c'est ouais. pas. Moi, je pense que d'ici la fin de l'été, c'est complètement dissymétrique. J'étais venu le 19 avril, j'ai regardé ce que j'avais dit à ce moment-là, que j'étais plutôt baissier, et le CAC était au même niveau. Ouais. Donc c'est pour relativiser ce que vous dites sur le fait que les marchés ont beaucoup monté. Ils ont beaucoup monté par 2-3 valeurs.
Ouais.
Donc ça, je pense que on va finir l'été.
Donc vous êtes prudent, c'est ça.
L'été, ouais, je pense que l'été, on va être un peu plus bas que les niveaux actuels, même peut-être nettement plus bas si.
Mais pour quelle raison? C'est ça que
je pense qu'en fait, les gens ne sont pas couverts, les investisseurs ne sont pas couverts. C'est-à-dire qu'en fait,
ils devraient se couvrir. C'est ça. J'essaye de comprendre.
Ils devraient se couvrir parce qu'il y a quand même des risques dans le marché. Toujours. Enfin, c'est un marché. Regardez, par exemple, on parle de Nvidia.
Mais d'un autre côté, vous êtes en train de nous dire au début, vous nous dites, tout est aligné. On a la baisse des taux, on a les résultats des entreprises.
Oui, alors ça, c'est alors encore une fois, c'est vision un peu longue, mais à court terme aujourd'hui, les gérants n'ont plus de liquidité pour aller chercher un marché qui rebaisserait très nettement. Et si la volatilité se mettait à un peu monté, alors je dis pas qu'elle va exploser à 40, mais on est sur des niveaux historiquement bas. Ça veut bien dire que les investisseurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur le thème je suis confiant, je suis pas confiant, mais ils sont pas couverts. C'est-à-dire qu'en fait, au moindre problème, il peut vraiment se passer un enchevêtrement de mauvaises nouvelles sur les marchés.
Est-ce qu'une directrice de la recherche économique regarde la bourse?
Oui, on regarde, on fait même des estimations.
Ah oui,
il y a une partie de l'équipe d'Allianz qui justement aide qui aide à gérer le portefeuille Allianz, puisqu'en fait, on réfléchit aujourd'hui en scénario alternatif.
Alors,
Là, pour l'instant, on est plutôt confiant pour dire qu'on va finir sur une performance positive du marché d'actions sur l'année, mais pas à 2 chiffres. Mais bon, l'année dernière,
pas
par exemple,
chiffres,
ça se corrigera à un moment donné. Mais on a quand même été surpris l'année dernière. Donc l'année dernière, on avait une performance plus faible que ce qu'on a eu à la fin de l'année. Mais je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attelle encore aux attentes de marché par rapport aux banques centrales. Puisque si, par exemple, la BCE ne va pas faire 3-4 baisses de taux...
Ça aura un impact.
À court terme, oui.
Si on a un cycle de baisse de taux qui commence, bon, s'ils en font 2 et qu'ils en font 2 l'année prochaine, on s'en fout un peu.
Non, mais si on a un euro-dollar à 1 ou en dessous, je pense que ça change un petit peu.
C'est ça le problème des banques centrales. C'est pas tellement. Ce qui se passe
c'est
en
pas
ce moment,
le
c'est
rythme
qu'elles ne sont pas coordonnées à l'échelle mondiale. Il y a quand même des endroits où elles sont plutôt à vouloir restreindre, des endroits où elles sont plutôt à vouloir.
Ce qui est logique, puisqu'on n'est pas dans la même situation.
Oui, bien sûr. Mais
il y a un fossé entre les États-Unis.
Les bonnes années boursières, c'est quand même des moments où les banques centrales sont alignées. Elles ne le sont pas, et ça a des effets sur les devises. Mmh. Moi, je pense que le problème actuel, c'est le problème de. Il y a des tensions sur les devises.
On l'a vu sur le yen.
Alors, imaginons que votre ami Trump, prenne le pouvoir sur une élection truquée.
Vous attaquez déjà.
Oui, voilà.
Il n'y a rien passé, vous attaquez.
Il monte des taxes et les Chinois, pour contrebalancer ça, font baisser leurs devises. On pourrait avoir un joyeux bordel quand même. Voilà. Donc.
Vous avez des avis à l'Institut, vous avez un avis sur la bourse?
Oui, évidemment.
Ah bon?
On reste sur un marché qui est porteur, pour moi, tant qu'on a ces 3 planètes qui sont alignées. Une activité économique qui tient.
Notez.
Oui, je note.
Elle tient. Une inflation, certes, elle est un peu plus persistante, mais on anticipe toujours qu'une inflation va baisser à l'horizon de 2025. Et surtout, je pense, et je partage ce point de vue, le point le plus important, c'est que les anticipations de baisse de taux des banques centrales sont toujours sur la table.
D'accord.
Et pour moi, le risque sont toujours anticipés par les marchés.
Les minutes de la Fed étaient moins claires.
Je dis pas ce que pensent certains membres du FOMC. Ah. Je dis qu'est-ce que pense le marché.
D'accord.
Et le marché est toujours dans une anticipation de baisse de taux. Après que certains membres du FOMC,
ça joue quand même.
Ça joue. C'est les marchés.
La tête des taux courts américains, ils ont quand même flambé depuis une semaine.
Mais les marchés sont toujours dans l'anticipation que le prochain mouvement sera une baisse, que les conditions de financement aux États-Unis aujourd'hui sont restrictives, et donc tant qu'on a cette configuration, activité, inflation et baisse de taux, c'est positif. Le risque numéro 1.
Non, c'est on n'a plus le temps.
Inflation,
vous nous faites
US,
3 points, vous en rajoutez.
Non,
on y arrive.
Le risque, c'est l'inflation.
On finit à chaque fois à 5 points.
Et les marchés n'anticipent pas tant que ça, parce que hier, sur une séance de négative d'anticipation, anticipation de hausse des taux, le marché il a perdu 600 points à Wall Street.